Ça a ouvert quand, le squat ici à Saint-Just?
Ça a ouvert le 18 décembre 2018.
Et depuis, comment ça s'est organisé au début? Pourquoi vous avez fait le choix d'ouvrir ce squat?
On a fait le choix d'ouvrir ce squat pour répondre à un besoin qu'il y avait sur le territoire, qui était la prise en charge de mineurs isolés. Et puis comme le bâtiment est grand, on a accueilli effectivement les mineurs isolés qui n'étaient pas pris en charge par le conseil départemental et aussi les enfants en bas âge qui étaient avec leurs parents et qui étaient eux aussi dans la rue.
Donc c'est tout des personnes là. Aujourd'hui, il y a combien de personnes ici?
Alors aujourd'hui, mais ça change chaque jour parce que chaque jour, les fruits des actions qu'on mène font que des mineurs sont pris en charge petit à petit par le conseil départemental, mais d'autres arrivent qui, eux, ne le sont pas. Donc on peut dire qu'au dernier recensement, entre guillemets, cette semaine, il y avait environ 145 mineurs isolés, une quarantaine de familles, et au total, les 40 familles, ça fait à peu près 63 enfants.
C'est énorme. Et là, le problème qui se posait, c'était que du coup, la prise en charge des mineurs, elle ne s'est pas faite par le conseil départemental. C'est pour ça qu'il y a au moins 110 mineurs à Marseille qui seraient à la rue si vous n'étiez pas là.
Bah, 145. Et oui, effectivement, en fait, quand les enfants arrivent sur un territoire en France, qui sont isolés, normalement, ils doivent être pris en charge par le conseil départemental. C'est pas le cas. Et donc, effectivement, le choix est assez simple. Quand vous voyez des mineurs qui sont tout seuls dans la rue, qui sont donc sans ressources financières, sans toit pour dormir, et qui sont donc pour se nourrir à la merci de n'importe quel type de réseau qui peut leur porter assistance, bah, c'était évident qu'il fallait faire quelque chose.
Oui, et c'est les citoyens du coup qui pallient au manque d'aide que devrait apporter l'État et les institutions du coup. Ça s'organise beaucoup comme ça?
Alors je ne sais pas si ça s'organise parce que comme vous pouvez le voir, on n'est pas non plus super organisé. Mais par contre, oui, on essaie de faire quelque chose. Je ne suis pas sûre qu'on pallie vraiment parce que l'État, en tout cas le département, quand il prend en charge des enfants, il a tout un système autour qui va du droit à la scolarisation, aux soins de santé, à l'accompagnement juridique s'il y a, etc. Psychologique aussi. Nous, on n'est pas du tout en mesure de faire ça. Donc on fait comme on peut avec les moyens qu'on a, mais c'est sûr qu'on ne peut pas fournir le travail que pourrait fournir un service public.
Oui, et c'est ça qu'on oublie de rappeler en fait. Ouais.
Ouais. Et par ailleurs, on associe à ce qu'on fait là, qui peut s'apparenter à la mise à l'abri, on associe à ça des demandes très claires auprès des institutions, c'est-à-dire des revendications qui sont avant tout politiques. Et l'ouverture du squat, elle est avant tout politique, elle est de s'adresser aux institutions et de leur rappeler leurs devoirs, et de dire que nous, en tant que citoyens, membres de ce pays, bah, on n'est pas contents de ce que les institutions font et de la manière dont elles, aujourd'hui, ne respectent pas les lois.
Et donc ça marche, ça fonctionne, en tout cas pour les mineurs, ça fonctionne parce que vous arrivez quand même à faire en sorte que certains soient pris en charge ou on ne peut pas dire que ça fonctionne?
Alors aujourd'hui non, ça ne fonctionne pas au sens où... En fait, ce qui fonctionne, c'est qu'on a mis en place un rapport de force. Et ça fonctionne, c'est là, on est juste en face du conseil départemental. On permet aussi à toute une catégorie de la population qui était invisible dans les rues d'être ici, visible, et la réalité, elle ne peut pas être niée. Et donc ça, c'est hyper important. L'autre chose, c'est qu'on associe beaucoup de citoyens à ça et que c'est important aussi ce qui se passe dans les murs parce que c'est des rencontres qui se font, c'est des échanges et des relations qui se nouent. Et à mon avis, ça, c'est le début aussi de quelque chose de très fort. Et au tout début, les manifestations, on les faisait nous. Et c'est vrai que les familles qu'on avait accueillies ici, les mineurs, ils étaient crevés, ils se reposaient et peut-être on n'était pas aussi très clair dans la qualification de ce combat. Aujourd'hui, ça a vraiment changé et en fait, c'est tous ensemble qu'on porte ça. Les manifestations, elles sont portées par tout le monde. Les discussions se font en assemblée générale et on élabore ensemble un combat qui est commun. Et ça, à mon avis, c'est très important. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas vraiment répondu à la question, est-ce que ça marche? Aujourd'hui, les mineurs qui arrivent, qui ne sont pas pris en charge, ça ne change pas, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont ici qu'ils sont pris en charge par le CD. Par contre, certains ont des avocats, vont au tribunal, et là, le juge, s'il confirme leur minorité, fait une ordonnance de placement provisoire. Et donc là, c'est carrément le juge qui donne l'injonction au conseil départemental de placer les mineurs. dans ce bâtiment, on a des enfants avec des OPP, ordonnance de placement provisoire. Et donc, avec des petites pressions, on arrive à les faire prendre en charge par le CD, par groupe, petit à petit, au compte-gouttes. Mais ce sont quand même des jeunes qui sont déjà passés devant le juge pour obtenir ça. Et c'est avec notre soutien en plus et nos revendications qu'ils ils sont pris en charge par le CD. Donc, je ne sais pas si on peut dire que ça marche. Ça concerne les mineurs. Pour les familles, c'est un peu différent. Donc, quand une famille fait une demande d'asile, elle signe une offre de prise en charge. Et c'est comme une sorte de contrat qu'elle noue avec l'État français, dans laquelle elle s'engage à suivre les règles que la République française elle s'engage à suivre les règles proposées pour la demande d'asile. Et en échange, l'État lui dit que si elle suit ses règles, il va lui donner un toit et de l'argent pour subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'elle ait la réponse à sa demande d'asile. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile, la plupart ne sont pas pris en charge. Et donc, en fait, ce contrat qui est signé et qui encadre la demande d'asile n'est pas respecté. Et donc, au lieu d'être pris en charge et hébergés, ils sont dans la rue.
Et donc là, c'est-à-dire que les familles, vous avez dit combien, 40 familles. Là, s'il n'y avait pas ce lieu-là d'hébergement, enfin qui n'est pas un lieu d'hébergement, qui est un squat, faut le dire, elle serait à la rue.
Oui, et donc là, il y a 40 familles, mais il y a aussi une liste d'attente énorme. On appelle ça une liste d'attente, mais on n'a plus de place sur le squat. C'est juste qu'on a proposé aux familles de garder leur nom pour les associer à ce combat-là. On a mis en place une deuxième permanence en centre-ville pour les accueillir et pour faire en sorte de mettre en place des procédures juridiques pour qu'elles aient accès à leurs droits. Sur cette liste d'attente, il y a au moins 80 familles. Et ça concerne que les familles qui nous ont rencontrées. Donc les autres, la plupart essaient de trouver un assistant social quelque part qui, s'il le veut bien, va bien mettre en œuvre des demandes d'hébergement. Par contre, pour tout ce qui est juridique, l'accès à un avocat, c'est hyper difficile. Donc un référé liberté, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça quand on est dans la rue.
Et du coup, ce lieu ici, ce squat, il va pouvoir... vous allez pouvoir y rester ou...
Alors, nous là, on a trois interlocuteurs. On a quatre même. Notre propriétaire actuel, c'est l'église. L'église a porté plainte contre nous pour se prémunir de tout accident qui pourrait survenir ici et se déresponsabiliser de ça, mais ça c'est normal. Par contre, elle nous a assuré qu'elle ne nous expulserait pas. Le bâtiment ensuite était sur un compromis de vente, et donc le futur acheteur, c'est l'IMF, l'Institut Méditerranéen de Formation, qui forme des travailleurs sociaux, et lui donc nous a dit aussi qu'il ne nous expulserait pas, mais nous demande de quitter les lieux au 31 mars pour engager des travaux pour son futur institut dès le 1er avril. Je précise que c'est pour une rentrée des classes en 2021. Donc bon. Et ensuite, nos autres interlocuteurs, c'est le conseil départemental qui devrait prendre en charge les enfants et donc potentiellement pourrait nous aider à sortir de ça s'il le faisait. Et enfin, la préfecture qui, elle aussi, pourrait accélérer l'accès aux droits des personnes, et pas seulement celle de Saint-Just, mais aussi celle de familles qui sont dans la rue. Donc voilà, on est face à tout ça et on attend de pouvoir trouver ensemble une solution pour pouvoir quitter les lieux et que tout le monde puisse avoir accès à un hébergement. Mais après, le manque de moyens, cette année, le département a eu un complément budgétaire sur les chiffres de l'année dernière par rapport au fait qu'effectivement, il y avait eu un peu plus de mineurs que les années précédentes. Donc ils ont eu un budget qui a été augmenté en fonction de ça. Donc en fait, l'argent, il y est. Et récemment encore, Madame Vassal a dit que ce n'était pas une question de moyens. Donc on peut ensemble se poser la question, si ce n'est pas une question de moyens, de quoi est-ce que c'est la question? Et clairement, là je parle en mon nom, mais c'est un choix politique en fait, tout simplement, de ne pas donner le signal à son électorat que oui, elle accueille des étrangers, parce qu'elle considère qu'avant d'être des mineurs, ce sont des étrangers, ce qui est contraire à la loi française.
Et si au 31 mars, je devais quitter les lieux,
De toute façon, on doit quitter les lieux avec une solution. Ça, c'est l'engagement de l'IMF et de l'Église, donc du diocèse en particulier. Donc, s'il y a une solution, on quittera les lieux, il n'y a pas de problème. La question, c'est comment on fait pour trouver une solution qui soit pas, qui soit une vraie solution, c'est-à-dire un accès aux droits et pas un palliatif d'urgence comme ça, c'est le cas en ce moment sur les expulsions de squat, où finalement on mobilise des nuitées d'hôtel ou des nuitées en hébergement d'urgence, mais c'est de l'urgence, c'est pas l'accès aux droits hébergement de la demande d'asile qui lui est pérenne jusqu'à la réponse de la demande d'asile. Voilà.